Puis, si vous voulez suivre avec moi, on va aller dans Genèse, chapitre 2, et versets 2 à 13. Genèse 1, versets 2 à 13. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe produisant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Un peu comme je vous avais dit la semaine dernière, on avait vu du verset 3 au verset 31, on avait tout lu le chapitre 31, le chapitre du verset 3 au verset 31. C'est pour donner une image de l'ensemble. Pourquoi on revient à 2 à 13? Parce qu'il y a une idée intéressante de séparer les jours en deux parties. Alors, les trois premiers jours, on pourrait dire que c'est l'arrière-plan du drame créationnel. Alors, quand vous allez au théâtre, il y a un arrière-plan, il y a des décors, il y a de l'éclairage, il y a des choses, ça forme l'arrière-plan, mais en avant, il y a des acteurs. Mais dans les six jours, l'idée de quand on va dans une pièce de théâtre est là quand même aussi. Alors, dans les trois premiers jours, c'est Dieu prépare l'arrière-plan du drame créationnel. Autrement dit, dans le verset 2, on dit que la terre était informe et vide et que les ténèbres était sur la terre. Maintenant, bien sûr, ce n'était pas des conditions favorables à l'apparition de la vie. Donc, Dieu fallait qu'il prépare l'arrière-plan. Et dans l'arrière-plan, il y a plusieurs choses, comme on va voir, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, il va créer la lumière. Bien entendu, si ça dit qu'au verset 2, c'était de la noirceur, à quelque part, on file malheureux dans la noirceur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, la noirceur, quand il fait vraiment noir, j'aime pas ça. Et je pense qu'il n'y a pas grand humain qui aime ça. On se sent insécure parce qu'on ne voit rien, on peut se cogner les pieds partout, on peut s'enfarger, on peut... Alors, on aime bien avoir de la lumière. Alors, la première chose, dans les versets 2 à 5, Dieu a créé donc un des éléments qui était nécessaire à l'apparition de la vie, la lumière. La deuxième, dans les versets 6 à 8, c'est la création de l'atmosphère. On va voir différentes... Parfois, on dit l'atmosphère, on pense à ça, on regarde ça, on trouve que c'est... Bon, il y a de l'air, il y a différents phénomènes qui sont reliés à ça, mais on ne s'arrête pas de voir tout le côté merveilleux qu'il y a à ça. Tout le côté de la bonté de Dieu et de la grâce de Dieu qui parle à travers toutes ces choses-là. Alors, l'atmosphère, c'est le verset 6 à 8. Et, bien sûr, on parle que c'était une masse qui était informe et vide. Donc, Dieu fallait qu'il crée la terre comme telle. Créer la terre. Autrement dit, c'était de l'eau. Et il dit qu'il a séparé l'eau d'au-dessus, l'eau d'au-dessous, et qu'il a fait apparaître la terre. Alors, juste ça, là, en soi, ça devrait être quelque chose pour nous amener à l'adoration. Parce que, imaginez-vous les amas d'eau, et pour qu'ils fassent sortir la terre, la puissance que ça prend, c'est inimaginable. Alors, des fois, on ne s'arrête pas à penser à ça. On lit la Genèse, chapitre 1, très rapidement. Mais si on s'arrête un petit peu de penser, faire sortir les continents, faire sortir les lacs, les rivières, tout ça, ça prenait une force extraordinaire. Et il y avait un but à ça. Le but de ça, c'était l'apparition de la vie. Et c'était, pour utiliser les expressions qu'utilisent souvent les théologiens quand on parle du chapitre 1 de la Genèse, ils vont dire deux choses. C'est christocentrique. Quand on lit la Genèse, il faut voir pourquoi Dieu écrit les choses, pourquoi Dieu permet que les choses aient été écrites. Il faut voir la personne de Christ qui va éventuellement arriver. Il va commencer à raconter pourquoi ça a été créé. Après ça, la chute de l'homme. Après que la chute de l'homme est arrivée, dans Genèse 3:15, il fait la promesse du Messie. Et tout cela, c'est christocentrique. Ça l'amène vers la paix, vers l'arrivée. Alors, l'Ancien Testament, c'est le Christ promis. Le Nouveau Testament, c'est le Christ venu. Et il y a une autre caractéristique quand on veut comprendre la Bible, l'ensemble des Écritures, à partir du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on appelle eschatologique. Parce que quand on regarde, oui, il amène l'apparition de Christ, après qu'il est venu, après ça on a le livre des Actes qui nous raconte les premiers croyants, comment ils ont vécu ça. Et après ça, on a toutes sortes d'informations avec les épîtres. Mais si vous remarquez, le dernier livre, c'est l'eschatologie, la fin. Autrement dit, l'Apocalypse, c'est la révélation du Christ qui va régler l'histoire. Alors, il y a toute l'histoire qui va se développer, mais quand on dit bien comprendre les Écritures, c'est comprendre que Dieu dit « Christ va venir, Christ est venu, et Christ va finir l'histoire. » Donc, ce qu'on appelle le Christ eschatologique. Donc, les Écritures, c'est l'histoire de tout cela. Et il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Souvent, quand on lit les Écritures, dans l'Ancien ou même dans le Nouveau Testament, on oublie le fil conducteur de pourquoi les Écritures ont été écrites. Les Écritures ont été écrites dans le but de nous présenter Christ et ont été écrites dans le but de nous présenter le Christ eschatologique. Eschatologie, quand on parle d'eschatologie comme doctrine, on parle des choses de la fin. Donc l'eschatologie personnelle, ça veut dire que quand on décède, si on n'a pas la paix avec Dieu, si on n'est pas réconcilié avec Dieu, on s'en va en enfer. Ça, c'est l'eschatologie personnelle. Mais l'eschatologie universelle, c'est que Dieu, Jésus, quand il est venu sur terre, il a dit qu'il était pour revenir. Et qu'il était pour régler ses comptes, éventuellement, le jugement final. Alors, on voit le déroulement, il y a comme un grand fil conducteur à travers toutes les Écritures, et ça commence déjà dans la Genèse. Il nous prépare, Dieu nous prépare l'arrière-plan du drame créationnel. Et l'arrière-plan. Et après ça, on va voir qu'à partir du jour 4, 5 et 6, là, il va nous présenter les acteurs. Alors, quand on regarde les trois premiers jours, c'est vraiment l'arrière-plan. Et quand tu nous présentes les jours 4, 5, 6, on a vraiment les acteurs qui vont commencer à rentrer. Banque, les animaux, tout ça. Et il va arriver avec l'homme, et il va arriver avec l'histoire qu'on voit dans Genèse 3, on va voir la chute de l'homme, et que Dieu va juger et va amener la promesse du Messie dans Genèse 3, 15. La première mention de Christ dans les Écritures, c'est Genèse 3, 15. Alors, la promesse que le Messie va venir un jour. Alors, les trois premiers jours, l'arrière-plan, les trois derniers jours qu'on va voir la semaine prochaine, versets 14 à 31, les acteurs du drame créationnel. Les trois premiers chapitres de la Genèse ont pour but de nous informer sur l'origine de l'univers. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, l'origine de l'univers, mais aussi l'origine de l'homme en particulier. Et ce livre-là nous apprend également comment Adam, le premier homme, introduisit le péché et la mort dans le monde. Quand il introduit, Dieu dit, « Si tu manges du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, certainement tu mourras. » Mais souvent on va retenir uniquement tu mourras dans le sens physique. Mais les Écritures nous parlent de trois sortes de morts. On a la mort physique, Depuis que Adam a chuté, tout le monde meurt. Il n'y a aucun être humain qui passera pas par là. On va tous passer par là. Donc, la mort physique, la mort spirituelle, c'est qu'à cause du fait du péché d'Adam, les Écritures nous disent que nous étions en Adam, et à cause du fait qu'on était en Adam, on est responsable de la faute d'Adam et d'Ève. Donc, à quelque part, on est responsable, et comme lui, on a la mort spirituelle. La mort spirituelle, ça veut dire que tu es séparé d'avec Dieu. Quand on disait tantôt les ténèbres, on est dans les ténèbres avant la nouvelle naissance, on est mort spirituellement. C'est comme Dieu nous voit comme étant mort. Et pas pour rien qu'il appelle dans Jean, on parle de la nouvelle naissance. On est mort, il faut qu'il nous redonne la vie. Et il y a une troisième sorte de mort, qui est la mort éternelle. Si une personne vient au monde, donc il est pécheur, donc il est condamné, donc il est coupable, il est condamné à l'enfer, à moins que Dieu lui accorde la grâce de se réconcilier avec lui et d'enlever le côté de la mort éternelle. Donc c'est bon de se rappeler que Adam a introduit par sa faute et celle de sa femme, introduit ces trois morts-là dans le monde. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Mais, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dès Genèse, tout après qu'il a tombé avec sa femme, Dieu a dit, dans Genèse 3:15, ça c'est le premier verset dans les Écritures où on parle prophétiquement de l'arrivée de Jésus-Christ. Alors il dit dans Genèse 3:15, après qu'il a eu jugé Adam, sa femme, le serpent, il dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, c'est vraiment tous les théologiens s'entendent à dire que Genèse 3:15, c'est vraiment la première mention de l'Évangile dans toute la Bible au complet. Quand Christ est venu sur la terre, quand Christ est venu sur la terre, vous vous souvenez qu'à un moment donné, après sa résurrection, il a fait un petit bout de chemin avec les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, ils s'en retournaient, puis ils ne comprenaient plus rien ce qui se passait. On nous avait promis un Messie. Il y a eu quelque chose à Jérusalem, ils l'ont crucifié, ils ne comprenaient plus rien du tout. Christ était ressuscité, il décide de faire un petit bout de chemin avec eux. Et qu'est-ce qu'il a fait, Christ? Alors, dans Luc 24, au verset 27, ça dit que Christ, en marchant avec eux, il les a expliqué les Écritures. Et ça dit, « Et commençant par Moïse », autrement dit, par Moïse, c'est les cinq premiers livres des Écritures. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Autrement dit, il est en train de dire qu'on parle de Christ dans tous les livres de la Bible. Donc, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Hey, moi j'aurais aimé ça être là, parce que là, il parle là de lui, comment il est mentionné qu'il était pour venir un jour. Et il lui explique toutes les Écritures au complet. Et ça dit, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui la concernait. Dans toutes les Écritures. Ça a dû être une conversation assez longue. Parce qu'il lui expliquait qu'est-ce qui le concernait dans l'ensemble de la Bible. De la Bible de l'époque, qui ne comprenait pas bien sûr le Nouveau Testament, parce qu'il n'était pas encore écrit. Mais ça comprenait, autrement dit, la Bible, l'Ancien Testament, qui étaient les Écritures de l'époque. Maintenant, on va aller tout de suite dans le verset 2 à 5. On va parler de la création de la lumière. Donc, un des éléments qui était nécessaire à l'apparition de la vie sur la terre. Alors, ça dit dans Genèse 1, verset 2 à 5, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un jour, un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Les libéraux, on ne parle pas du parti politique, on parle de la théologie. En théologie, ceux qu'on appelle les libéraux, c'est ceux qui lisent les Écritures avec un œil d'incroyant. Autrement dit, s'ils voient un miracle, « Ah, oh, ben là, ça ne doit probablement pas être un miracle. » Tout ce qui est miraculeux dans les Écritures, les libéraux trouvent moyen de trouver des explications naturelles. Autrement dit, ils ne croient pas ce qui est écrit. Fait que, bien entendu, les libéraux, quand ils lisent Genèse, ils ne font pas exception. Ils disent, ils arrivent avec un argument. Ils disent, comment peut-on parler d'apparition de la lumière avant que le soleil ait été créé le quatrième jour? Voyez-vous? Ils disent, le soleil n'a pas été créé, puis vous êtes en train de parler de lumière. La lumière vient du soleil. Donc, c'est une erreur. Donc, c'est de la folie. Voyez-vous, la folie de l'homme, parce qu'il y a une chose qu'il oublie, c'est malheureux, c'est que Dieu est lumière. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Les Écritures nous disent que Dieu est lumière. Est-ce qu'on a besoin du soleil pour de la lumière quand on parle de Dieu? Ben non, parce que Dieu est lumière. Alors leur argument de dire, ça se peut pas qu'il y ait de la lumière parce que le soleil a été créé qu'au quatrième jour, c'est de la folie furieuse, comme on dit. Alors, la première chose à constater concernant la lumière, c'est que c'est une œuvre divine. Dieu est capable de la créer. Non seulement capable de créer la lumière, mais capable aussi de créer les ténèbres. Dans Ésaïe, le chapitre 45, au verset 7, ça dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. » Dieu parle. Donc, il est capable autant de créer un comme de créer l'autre. La lumière, maintenant, a une autre caractéristique. C'est une œuvre divine, mais c'est aussi une œuvre dont Dieu lui-même fait l'appréciation. Autrement dit, nous autres, quand on est placé devant quelque chose, on en fait une appréciation, mais souvent notre appréciation va être faussée un peu à cause qu'on est des pécheurs. On apprécie les choses, mais on les apprécie pas toujours à leur juste valeur. Dieu, quand il apprécie quelque chose, puis quand il dit c'est bon, vous pouvez vous fier sur son jugement. Le jugement de Dieu est parfait. Il a fait la lumière et il dit, c'est bon. Alors, Ésaïe 45, verset 18, parce que là, on va relier Ésaïe 45, 18 avec ce qu'on est en train d'étudier. Car ainsi parle l'Éternel, en 45, 18, là, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Voyez-vous, remarquez bien les mots qui suivent, là. Qu'il l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'en a point d'autre. Il l'a créée pour qu'elle soit habitée. Donc, il commence par dire, le premier Genèse 1:1, il l'a créée, mais elle n'était pas dans des conditions idéales. Il a préparé le terrain. Trois premiers jours, il a créé l'arrière-plan. La lumière, c'était la première chose nécessaire. Une appréciation divine, c'est toujours infaillible. Mais il y a quelque chose que parfois, on lit ça, qu'on lit la lumière. Oui, on en voit les veaux, on allume la lumière, puis on ne s'émerveille plus devant la lumière. Pourtant, si on se mettait à étudier la lumière du point de vue uniquement scientifique, il y a des choses extraordinaires qui concernent la lumière. Premièrement, vous avez sûrement entendu à quelque part sur Internet ou dans des films les rayons laser. Mais là, le laser, c'est de la lumière. Puis c'est de la lumière que si vous pourriez couper une colonne avec ça, là. Et plus c'est intense, plus c'est puissant. Alors la lumière, c'est quelque chose qui comprend une multitude d'aspects qui sont littéralement fantastiques. Et là, je vous parle du laser. Alors, bien entendu, les scientifiques ont étudié la lumière sous tous ses angles, sous toutes ses facettes. Pensez-vous qu'ils ont tout compris? Non, pas encore. Depuis des centaines et des centaines d'années, ça a été étudié par les plus grands esprits humains de la Terre et on n'a pas encore compris à la perfection, de façon exhaustive, autrement dit, de façon, tu as vidé le sujet, autrement dit. Ils n'ont pas vidé le sujet. Malgré toutes les études qu'ils ont faites là-dessus, ils n'ont pas vidé le sujet. Il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas encore. Est-ce que la lumière, c'est une onde ou est-ce que la lumière, c'est une particule? Ça fait des années qu'ils étudient ça et ils ne savent pas encore. Alors, c'est plein de choses, côté merveilleux de la lumière. Son côté magnifique aussi. La lumière, c'est ce qui nous permet de percevoir les couleurs. Un monde sans couleurs, c'est vraiment pas beau. Quand dans le temps, on allait au cinéma, les films en noir et blanc. Puis quand les films en couleur ont apparu, la couleur, c'est beau, la couleur. Dieu permet que la couleur, il ne cède couleur fondamentale et ça nous émerveille littéralement. Quand on voit des beaux paysages, où je prenais ma marche avec ma femme, on passait sur le bord du lac, je dis, regarde-moi ça. On s'est arrêté, on regarde le lac. C'était beau. Puis là, ça change, j'arrête pas de changer. Le matin, c'est pas pareil. Deux minutes après, ça a déjà changé. Ça arrête. Moi, là, qu'est-ce que ça me fait, là, personnellement, là, souvent quand je vois ça, soit le matin ou soit le soir, je regarde puis je dis, je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait. C'est tellement beau. Ça touche le fond de notre âme. Parce qu'on sait que c'est divin. On sait que c'est Dieu qui est en arrière de toutes ces choses-là. Maintenant, elle n'est pas juste... il y a un côté mystérieux, la lumière. Il y a un côté magnifique. Il y a un côté utile et essentiel à la lumière aussi. Les végétaux se nourrissent en partie de la lumière du soleil grâce au processus de photosynthèse. Tout ce qu'on voit là, autour de nous, les fleurs, l'herbe, toutes ces choses-là, s'il n'y avait pas de lumière, on est loin d'apprécier à sa juste valeur le cadeau divin de la lumière. Et ça ne fait pas juste ça, ça transporte la lumière du soleil et ça la rend jusqu'à la Terre. Et ça permet le développement de la vie sous toutes ses formes. Pour les animaux aussi, la lumière, c'est un signal soit pour l'hibernation ou soit pour la reproduction. Dieu a rangé les choses que la lumière dirige plein de choses, plein de phénomènes qui sont sur la Terre. Alors, bien entendu, à l'intérieur des phénomènes astronomiques, il y a le cycle du jour et de la nuit. On le sait, on va me coucher à soir, puis à un moment donné, vers 7 heures, la lumière va baisser. Mais je sais que quand je vais me lever demain matin, je vais regarder, puis elle va réapparaître. Le cycle, c'est un cycle sans fin, mais c'est Dieu qui est en arrière de ce cycle-là. Alors, il y a des éclipses, il y a toutes sortes de phénomènes qui sont reliés à la lumière. Vous voyez, dans Ecclésiaste, le chapitre 11, verset 7, ça dit « La lumière est douce et il est agréable aux yeux de voir le soleil. » On est-tu influencé par le soleil ou si on ne l'est pas comme être humain? Deux, trois jours que ça fait gris, on commence déjà à être dépressif. On a besoin de la lumière. Dieu le sait et Dieu nous la donne. Il dit « La lumière est douce et il est agréable aux yeux » de voir le soleil. Dans le psaume 130, au verset 6, ça dit « Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. » Autrement dit, j'étais dans l'armée, puis quand on nous met ça à garde la nuit, ça veut dire qu'il faut que tu passes la nuit debout à surveiller, parce que le rôle d'un garde, c'est de surveiller pour que l'ennemi arrive, et que s'il arrive, bien, que vous puissiez aller avertir vos autres personnes. Ils disent que les gardes, ils ont hâte au matin. Puis ça, c'est vrai. Parce que quand tu passes une nuit blanche, debout, à surveiller, t'as hâte que le soleil se pointe pour que ton chiffre finisse, puis tu ailles te coucher. Alors, c'est vraiment la lumière, on en parle aussi, on parle de la lumière physique, là. Mais la lumière physique, les Écritures prennent souvent l'image de la lumière physique pour nous parler d'une autre sorte de lumière. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, ça dit « Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire sur la face de Christ. » Autrement dit, Dieu se sert de l'image de la lumière physique pour nous parler de l'équivalent dans le monde moral, la lumière. Dieu, Jésus lui-même est la lumière. Maintenant, on va passer au jour 2. La lumière, on pourrait dire plein d'autres choses. On va passer au jour 2. La création de l'atmosphère. Genèse 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. On le sait, l'atmosphère, c'est une œuvre divine. Dans le psaume 19, au verset 2, ça dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue. » Dans la version King James, en anglais, ça dit « The firmament »,« le firmament », manifeste l'œuvre de ses mains. Si on regarde le firmament, que ce soit de jour ou que ce soit le soir, ça manifeste. Manifester, ça veut dire rendre visible, rendre perceptible, rendre évident. Quand on regarde le ciel de jour ou de nuit, ça manifeste que tout ça, c'est une œuvre de création divine. Le psaume 104 nous dit une autre chose sur l'atmosphère. Psaume 104, verset 2. Il dit « Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme une tenture. » Là, on ne s'arrête pas trop à penser ce que ça veut dire. Dieu est capable de prendre l'univers dans sa grandeur, on a déjà parlé dans les leçons précédentes, et c'est immense et grand, des millions de milles, des millions et des millions et des millions de milles, et il dit qu'il étend les cieux comme une tenture. Tenture, comme un rideau. Si vous prenez un rideau chez vous, vous faites juste... Pas dur à étendre. Hein? Prenez même pas un centième de votre force pour faire ça. Mais lui, il prend l'univers, puis il l'étend comme ça, comme un manteau. Si on ne s'émerveille pas de la gloire de Dieu à travers de tout cela, parce qu'on lit les Écritures trop rapidement, si on s'arrête à mesurer ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire que cette masse-là qui est tellement énorme, Dieu n'a même pas besoin d'utiliser sa force pour tout l'étendre. C'est extraordinaire. Maintenant, on le sait, l'atmosphère, c'est quelque chose de bon et c'est indispensable à la vie. Sans oxygène, l'homme ne pourrait pas survivre. Elle supporte, cet oxygène-là, la vie animale, la vie végétale, la vie humaine. Elle est utile aussi, parce qu'on ne s'arrête pas à penser à ça aussi, que toute cette air-là qui nous entoure, l'atmosphère, elle joue plusieurs rôles. Elle transmet le son. Il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Elle conduit la lumière, la réfracte, la décompose, elle fait monter les vapeurs, les accumule dans les nuages, les disperse par les vents, aide à la respiration par l'humidité qu'elle transporte. Sans elle, pas de pluie, pas de neige, pas de rosée. Elle assiste l'homme, l'atmosphère, dans ses activités chimiques, commerciales et scientifiques. Elle est gratuite et complètement obéissante à la volonté du Seigneur. Ça, c'est une autre affaire que la nature nous donne des leçons. La nature obéit à Dieu. Et nous, on est des êtres humains, on trouve le moyen de désobéir à Dieu. Alors, l'atmosphère, nous enseigne qu'on se devrait d'être soumis à la volonté divine. Voyez-vous le psaume 147, les versets 7 et 8. Louez l'Éternel du bord de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutez ses ordres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les phénomènes météorologiques arrivent à cause que Dieu a commandé que ces choses-là arrivent. Quand on voit le vent, quand on voit la grêle, qu'on voit les éclairs, quand on dit feu et grêle, neige et brouillard, tout cela, c'est contrôlé par Dieu qui donne ses ordres à ces choses-là et les éléments obéissent à Dieu. Ce qui se passe autour de nous, c'est toujours l'exécution d'un ordre divin. Peu importe ce qui se passe. Il pleut, Dieu a ordonné à la pluie. Il grêle, Dieu a ordonné à la grêle. Et quand on se met à regarder les choses avec cette perspective-là, tout change. On voit la main de Dieu dans tout ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Alors nous aussi, on se devrait de se soumettre à Dieu, à sa souveraineté dans nos vies puis dans les circonstances providentielles qu'il nous envoie. C'est quoi les circonstances providentielles? C'est les choses que Dieu permet qui arrivent dans nos vies, de tous les jours. Et ça aussi, c'est commandé par Dieu. Mais souvent, on rue des brancards. Il nous envoie quelque chose que nous, on ne trouve pas intéressant. J'ai fait de mon Dieu, il m'arrive ça. Et on pleure, on chiale, on grogne. Alors qu'on se devrait de recevoir tout ce que Dieu permet qu'il arrive dans nos vies. Que ce soit de la maladie, que ce soit de la mortalité, que ce soit... Dieu est au contrôle de toutes choses. Et il faut le voir comme le grand maître qui dirige toutes nos circonstances. Pas pour rien qu'on dit que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais voulez-vous bien me dire pourquoi on passe notre temps chialer de bord? Si toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, est-ce qu'on aime Dieu? Oui. Mais si toute chose contribue au bien, toute chose travaille ensemble pour nous faire ressembler davantage à Christ, pourquoi on passe notre temps à chialer? Parce que tout ce que Dieu permet qui arrive dans nos vies, il y a des raisons à cela et il y a des choses à nous enseigner par ces choses-là et à travers ces événements-là. Quand on se met à regarder la vie avec cette perspective-là, tout change aussi. Parce que là, on se met à dire, « Bon, Dieu arrive... » C'est vrai que ce n'est pas toujours agréable. Ça ne dit pas que ça va t'enlever la douleur, mais ça va juste te rappeler que c'est Dieu qui a permis l'événement dans ta vie. Pour une raison précise, Dieu est infiniment sage. Tout ce qu'il permet qui arrive dans ta vie est bon. Alors, on se devrait d'avoir de la gratitude quotidienne et consciente. Et le troisième jour, parlant de pression atmosphérique, hier, je regardais des phénomènes de pression atmosphérique. Il disait que notre corps, il subit une pression de l'extérieur par l'air. On dirait, si je vous dirais l'air, c'est pesant? Pesant, ça?
On dirait que oui, c'est pesant, si t'en parles.
C'est pesant pas mal. C'est pesant pas mal, vous vous dire pourquoi. L'air extérieur produit une pression sur nous de 1 kg par centimètre carré. Littéralement, là, si Dieu ne nous avait pas organisé pour qu'on ait une pression intérieure qui vienne annuler la pression extérieure, on serait littéralement écrasé. Hey, pensez-y, 1 kg, c'est 2,2 livres. 2,2 livres au centimètre carré. Ça nous écraserait littéralement. C'est ce qui explique pourquoi ceux qui montent en montagne, il y a moins d'air. Donc, à quelque part, leur pression intérieure est plus forte que celle extérieure. Pour ceux qui ont des maux de tête, puis ont toutes sortes d'affaires comme ça. C'est tellement... Dieu a tellement bien fait les choses. Juste donner une idée, ce qu'il appelle ça les hémisphères de... Il y a un nom, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est comme deux grosses boules dont tu enlèves l'air à l'intérieur de ça. Et c'est, l'air extérieur, la pression est tellement forte que même si tu mettrais un cheval à chaque bord pour tirer après qu'elle est vide, là, l'air, c'est la poussée de l'atmosphère qui fait que même si tu mettrais un cheval à chaque bord, tu ferais même pas que, même si ça serait juste une boule de à peu près cette grosseur-là, là, vide, tu serais capable de supporter la tirée de deux chevaux, ça ouvrira pas. 14, en mesure québécoise, 14,7 livres au pouce carré. C'est très pesant. Ça a l'air pas pesant, là, mais si Dieu ne nous avait pas organisé pour annuler la pression extérieure par la pression intérieure, on serait littéralement écrasé. C'est spécial quand on pense à ça. Hein? Et, ben, on pense pas à ça, pas souvent. Mais c'est quand les gens étudient les phénomènes de science, ben, qu'ils sont... Et le jour 3, bien entendu, il avait besoin de la lumière, il avait besoin de l'atmosphère, et le troisième jour, il dit, on avait besoin de la terre ferme. On n'aura pas de terre ferme, là. Vous posez les pieds. Après ça, des mers et la verdure, versets 9 à 13. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon leur espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur espèce. Ayant en eux leur semence selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le troisième jour. C'est-tu assez extraordinaire, ça? Une pêche, il y a un noyau à l'intérieur. Si vous plantez le noyau, vous allez avoir un arbre de pêche. Une pomme, vous prenez un petit noyau. Alors, c'est ça que Dieu dit, qu'à l'intérieur de chaque fruit, à l'intérieur de chaque arbre, il a permis que ça contienne le noyau pour que la vie puisse continuer par elle-même. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Je me souviens, un temps, j'étais à l'école biblique, un ami, et il m'avait dit, il avait pris un pamplemousse, il l'avait coupé en deux, il avait pris un petit noyau, mais il l'avait donné, il dit, « M'aller en terre, là, puis ça va durer aussi longtemps que notre amitié. » Puis je l'avais fait, puis ça pousse. Première nouvelle, tu sais, j'ai rendu quasiment un petit arbre. Puis si tu aurais les conditions idéales, ça deviendrait littéralement un pamplemoussier. Dieu a mis à l'intérieur de chaque fruit, à l'intérieur de chaque arbre, la semence qui était nécessaire pour que tout cela puisse se reproduire. La terre ferme. Donc la terre ferme, donc il produit la terre ferme. Job chapitre 38, versets 8 à 11. Qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement, et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi, et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Je me souviens d'avoir entendu ça à la télévision une fois, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'eau de la mer, semble-t-il que, si on mesure ça, est plus haute que la terre. Normalement, ça devrait couler sur nous, ça devrait nous noyer. Écoutez bien ce que le verset dit. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici, ça arrêtera l'orgueil de tes flots. C'est Dieu qui permet que l'eau ne vienne pas de nous. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on, des fois, on perd un petit peu la notion de ça, mais c'est tellement dommage. Donc, par la toute-puissance, Dieu assigna aux eaux les mers, les lacs, les rivières, il leur donna leur place, et la végétation, bien entendu. Il y a tellement de formes, de variétés de végétation sur la terre, c'est des dizaines et des dizaines de variétés. Donc, Dieu dit que c'était très bon, c'était bon, Dieu vit que cela était bon. Le Seigneur Jésus nous enseigne aussi que la nature est une pédagogue. L'observation de la nature nous donne plusieurs leçons morales. Quand le Seigneur dit « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lys des champs. Il ne travaille ni ne filme. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à forte raison, gens de peu de foi? Alors, on peut faire quelques applications du texte, de notre très, très brève étude du texte d'aujourd'hui. Première application, rendons grâce à Dieu pour la lumière, la naturelle comme la spirituelle. La nature est remplie de merveilles pour l'entretien de la vie et la diffusion de la beauté. Quant à la lumière spirituelle, elle nous parle de Christ. Ésaïe 49, verset 6. Il dit, « C'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. » Ici, c'est le Père qui parle au Fils. Il dit, « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, la lumière, on peut en parler de la lumière physique, mais on peut parler aussi de la lumière. Christ est considéré comme la lumière. Et les Écritures nous parlent de nous, après notre nouvelle naissance, comme étant des enfants de lumière. Deuxième application, l'atmosphère nous fournit de nombreuses raisons de rendre grâce. L'air que nous respirons, la transmission du son et de la lumière, qui nous donne la neige, la pluie, la rosée, et que ça contribue à notre bien-être d'une multitude de façons, le commerce, l'industrie, les réactions chimiques. Troisième application, toute une vie est requise pour apprécier les différentes facettes et richesses de la terre, des mers et du règne végétal. Obéissons à Christ qui nous rappelle que la nature est une grande pédagogue. Vous vous souvenez des fois que le Seigneur a dit « Va vers la fourmi paresseuse et observe ». Autrement dit, tout autour de nous, c'est plein de choses qui nous enseignent, des choses équivalentes au point de vue moral. Que notre grand, glorieux, souverain et tout-puissant Seigneur soit loué, béni et adoré pour ses infinies merveilles. Amen.
Amen.